Radio Okapi.
Ce journal de midi débute par de la sécurité et défense du territoire avec cette réunion d'évaluation tenue par le chef d'état-major général des FARDC avec ses commandants dans le Nord Kivu, principalement pour ce qui concerne la région de Beni. Il a plu à Gnocchi dans la province du Maïndombe. Dans ce journal, nous vous parlons des conséquences de cette pluie dans le corps de ce journal. Plus de 20 bâtiments de cette école, c'était 5 églises et plus de 30 maisons des particuliers sont endommagées. Liévin Tizungo, chef de production à la centrale hydroélectrique Ruzizi 1, est notre invité en fin de cette édition. Il donne les raisons de la baisse des productions d'énergie électrique dans leur zone de couverture. Fidèles auditeurs, merci de choisir Radio Okapi pour votre information. Bienvenue et bonjour à toutes et à tous. Une réunion d'évaluation des opérations militaires contre les groupes armés dans la région de Beni a eu lieu hier vendredi au Nord Kivu. La réunion a été présidée par le chef d'état-major général des FARDC en mission dans la zone. Martial Papi Mukeba pour les détails.
Ont pris part à cette réunion les gouverneurs militaires du Nord Kivu, les commandants de la 3e zone de défense des FARDC, les coordonnateurs des opérations conjointes des armées congolaises et ougandaises, les commandants des opérations Sokola 1, ainsi que les responsables des renseignements civils et militaires. Selon des sources militaires, le chef d'état-major général des FARDC voulait se rassurer du bon déroulement et de l'avancement des opérations militaires contre les ADF et d'autres groupes armés locaux. Un briefing militaire a donc été fait, suivi d'un échange et partage d'informations entre les différents participants. D'après la même source, le général d'armée Célesté Mbala a donné de nouvelles instructions précises pour l'amélioration sur terrain de la qualité du travail des FARDC et ses partenaires de l'armée ougandaise et de la MONUSCO. D'autres sources sécuritaires disent qu'après Beni, le chef d'état-major général des FARDC doit se rendre à Goma où il aura une autre réunion de haut niveau avec certains membres du gouvernement dans le cadre toujours de l'évaluation des opérations militaires au Nord Kivu et en Ituri. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Dans la même région, 10 civils ont été enlevés par les présumés rebelles ADF ce jeudi à Ndiva, un village du groupement Baumbu dans la chefferie de Watalinga en territoire de Beni. Selon la présidence de la société civile de Watalinga qui livre l'information, ce kidnapping a eu lieu lors d'une incursion de ces rebelles dans le village. Odette Zawadi indique que cependant, 3 autres personnes dont une femme se sont échappées des mains de leurs ravisseurs quelques heures après dans la vallée de Sololo. Aucun cas de mort n'est à déplorer, indique notre source. Plus de 20 bâtiments de cette école, 5 églises et plus de 30 maisons des particuliers endommagées, tels sont les dégâts causés par une forte pluie abattue vendredi 25 mars 2022 sur la cité de Gnocchi située dans le territoire de Koutou en province du Maïndombe. La société civile locale qui livre l'information attribue cette situation notamment aux constructions anarchiques ainsi que la poussée de plusieurs têtes d'érosion dans la cité. Isé Bolemo, son président, lance un cri d'alarme aux autorités compétentes pour l'assistance de ces familles désormais sans abri et de ces écoles en vue de les reconstruire. Reportage de Irène Beaumont.
C'est dans l'après-midi d'hier vendredi 25 mars que cette forte pluie accompagnée d'un vent violent s'est abattue sur la commune rurale de Gnocchi. Malheureusement, selon la société civile, cette pluie a causé plusieurs dégâts dans la cité. Des écoles, des maisons d'habitation, des églises et autres bâtiments ont été endommagés. Pour Isebole, mon président de cette structure qui témoigne, plusieurs facteurs favorisent cet état des choses, notamment les érosions.
Il y a eu un grand vent violent qui a coulé plus de 20 bâtiments scolaires, 4 églises qui sont complètement endommagées et une église partiellement endommagée. Et il y a plus de 30 maisons d'habitation qui sont écroulées. Et il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu là-dessus. Le problème des constructions anarchiques, mauvaise gestion de l'espace, les reboisements, les arbres ne sont pas bien gérés. Il y a le problème des érosions.
Isebole plaide pour l'assistance des familles sinistrées et des élèves qui manquent maintenant des bâtiments pour étudier.
Je demande donc aux autorités, tant nationales que provinciales, de pouvoir assister le plus tôt possible aux victimes de ces catastrophes naturelles qui est imprévisible. Et aux écoles, comme je vous dis, il y a plus de 7 écoles aujourd'hui qui n'étudient pas, dont les élèves sont dehors. Si on peut prendre des dispositions, j'y donne là-dessus.
Il s'est de noter qu'à part ces dégâts matériels, l'on signale aussi un blessé grave causé par cette même pluie. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Un autre coin, mais avec les mêmes réalités, nous venons de l'apprendre, la pluie qui s'est abattue sur le territoire de Bukama dans la province du Olomami a causé de nombreux dégâts. Plusieurs maisons se sont écroulées et les sinistrés qui passent la nuit à la Belle Étoile nécessitent une assistance à en croire l'administrateur du territoire de Bukama en charge des questions politiques et administratives. Trudon Lengue a été joint par Jean Gandou.
Il y a 45 maisons totalement écroulées dans les quartiers Brick Quit, également aussi à Kibanda, dans la chefferie Kibanda, groupement Fungwe. Une dame a été emportée par les eaux de pluie et le corps n'est pas encore retrouvé. Selon les contacts que nous avions eu ce matin avec le chef de chefferie Kibanda, l'équipe de recherche est en train de faire son travail afin de retrouver son corps parce qu'il s'est noyé dans la rivière Fungwe. Les sinistrés jusque-là passent nuit à la Belle Étoile. Demandons peut-être aux humanitaires s'ils peuvent les appuyer également aussi aux autorités politico-administratives, notamment les autorités provinciales, pour que ces compatriotes qui continuent à passer nuit avec leurs enfants à la Belle Étoile et les autres sont dans les familles d'accueil. Les nombres de sinistrés que nous avions recensés juste à présent, au nombre de 230, les enfants et les femmes ainsi que les hommes qui nécessitent un encadrement ou un appris, hein, surtout pour les enfants parce qu'ils sont vraiment vulnérables.
En Ituri, le gouverneur de province a lancé vendredi deux projets de réhabilitation du tronçon Kobu-Mungwalu dans le territoire de Djougou ainsi que de l'asphaltage des 8 km des voies urbaines à Bounia. Ces travaux sont financés par le gouvernement central afin de permettre la libre circulation des personnes et de leurs biens, mais aussi pour faciliter les opérations militaires dans ce territoire où les groupes armés sont actifs. Une action saluée surtout par les habitants du territoire de Djougou qui déploraient les conséquences de l'impraticabilité de la route Bounia-Mungwalu sur le vécu quotidien de la population. Ezekiel Mouzalia.
Le projet d'asphaltage de 8 km de voirie a été lancé au pont Mouchanga à Bounia. Le deuxième projet de réhabilitation des routes Kobu-Mungwalu de 45 km de longueur sur la RN27 a été lancé à Iga Barrière à 27 km de la ville de Bounia dans le territoire de Djougou. Certains usagers de cette route avaient suspendu le trafic sur cet axe à cause de son impraticabilité, mais aussi l'insécurité causée par les groupes armés dont la milice Codeco. La population accueille avec satisfaction cette action du gouvernement central. Un habitant s'explique.
Nous sommes très contents. Cette route était dans un état très déplorable. Aujourd'hui, les autorités prennent la décision de la réhabiliter. C'est ce qui va maintenant encourager la population à payer les taxes parce qu'elle voit des initiatives concrètes.
De son côté, le gouverneur des provinces a rassuré la population que les opérations militaires sont en cours pour garantir la sécurité dans cette zone et permettre l'avancement des travaux pour le développement de l'Ituri. Le général Johnny Nkashama.
Vous ne pouvez pas parler de la sécurité et ne pas parler du développement. De cette route-là, c'est une route économique. Si nous pouvons réorganiser cette route-là, l'accès sera facile et nos militaires auront ce qu'on appelle le délai d'intervention.
Signalons que ces travaux, qui vont durer 10 mois, sont exécutés par l'entreprise Mogabaon. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Femmes entrepreneurs et opportunités de la transition écologique, c'est le thème du forum annuel des femmes entrepreneurs qui se tient ici à Kinshasa depuis ce vendredi 25 mars. Ceci dans le cadre de la célébration des activités du mois de la femme. Cette rencontre qui réunit des femmes venues de toute la RDC et de certains pays de l'Afrique est une initiative de la fondation NEEMA. Paul Matendo.
Selon Ketia Olangi, présidente de la fondation NEEMA, l'objectif de ces assises est de créer une synergie des femmes entrepreneurs pour le développement de l'Afrique en général et de la RDC en particulier. Parmi les intervenants, Al Kitenge, stratège, lui a présenté quelques opportunités d'affaires.
Parmi les grandes opportunités aujourd'hui, c'est un, le comportement a changé par rapport à l'énergie. Par exemple, comme vous le savez très bien, les utilisatrices de l'énergie carbonée la plus brute, ça veut dire le charbon, ici ce sont les femmes. Elles peuvent saisir l'opportunité de ce changement pour être en mesure de le conduire et ne pas laisser les gens gagner de l'argent sur elles. Deuxièmement, il y a toute cette question de la grande transition des carburants.
Simone Bago, professeure d'université venue d'Abidjan en Côte d'Ivoire, elle recommande au gouvernement, entre autres, de créer un cadre légal propice pour le développement de l'entrepreneuriat féminin.
Le gouvernement est capable de tout faire. Il faut mettre des textes à jour pour que les femmes aient des moyens de travail conséquents. Il faut également mettre en place du financement.
Plusieurs autres femmes ont pris la parole, comme la chanteuse congolaise Barbara Kanam.
À Butembo, 27 femmes ont reçu en début de semaine le prix Grande Image de la femme congolaise dans le cadre de la célébration du mois de la femme. Il s'agit des femmes défenseurs des droits de la femme, actrices politiques, entrepreneuses policières, chercheuses et journalistes ont été primées pour leur savoir-faire. Le prix leur a été décerné par l'ASBEL Congo Excellence International, la COEXI RDC, une structure de vente et de production de l'image positive de la RDC et la valorisation de son peuple. Florida Kahambu nous en parle.
Selon les organisateurs, ce prix a été décerné à ces femmes dans le but d'encourager les autres femmes dans le cadre de la résilience dans la région de Butembo-Beni en proie à l'insécurité. Parmi elles, Mbambu Luvuno Devote, présidente du parti politique Éveil de la conscience pour le travail et le développement, ECT. Elle est la seule femme responsable des partis politiques dans la ville. Mwamini Kalwana est une femme paysanne qui a été primée pour la transformation artisanale du cacao et du café de spécialité. Cette dernière fournit des paquets de café à différents supermarchés et alimentations locales. Dolorose Marie Kafanya, une autre femme récompensée, a été primée pour ce combat qu'elle mène depuis plus de 20 ans dans la lutte contre les violences sexuelles. Pendant ces temps, Shekina Toudi s'est spécialisée dans l'animation, décoration et sonorisation des cérémonies nuptiales, un métier fait majoritairement par des hommes. De son côté, le commissaire principal Cécile Kendakenda a été récompensé pour son dévouement au sein de la police. Elle est aujourd'hui porte-parole de la police au niveau local. Butembo, Florida Kahambu, Radio Kapi.
Au Kasaï Oriental, publication hier vendredi en Mbujimayi du rapport sur la répartition et l'affectation des fonds de la redevance minière générée par les entreprises qui exploitent le diamant dans la province. L'atelier de dissémination de ce rapport a été organisé à l'hôtel Métropole par l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE, en sigle la collaboration avec le CRONGD, Conseil Régional des Organisations Non Gouvernementales du Kasaï Oriental. Plus de 50 personnes parmi lesquelles les acteurs de la société civile, les chefs de quelques entités territoriales décentralisées et les cadres des services publics de l'État ont été invités pour suivre le rapport. Joseph Chiunga, chef de la délégation de l'ITIE, donne ici le constat fait sur l'utilisation des fonds par les entités territoriales décentralisées.
Le constat général dans le rapport de l'ITIE que l'argent a été payé aux ETD, mais l'argent n'a pas encore servi à la réalisation des infrastructures de base d'intérêt communautaire. Après débat, il servait qu'il y a quelques incohérences dans le rapport. C'est que l'argent perçu a été effectivement payé aux ETD autour d'$1 million. C'est à ce niveau des ETD qui se trouvent encore des éclaircissements pour savoir à quoi a servi cet argent. Pour le secteur de Mpemba, le chef de secteur a indiqué qu'ils ont construit une école. Mais avec le montant de $150,000 qu'ils ont reçu. C'est à ce niveau-là que se pose pour voir le problème pour voir la proportionnalité entre $150,000 et l'école réalisée. Pour les autres ETD, nous allons continuer dimanche à Miabi, qui nous disent aussi combien ils ont reçu et à quoi ils ont affecté cet argent.
Parlons à présent de cette marche de colère hier vendredi à Mwanda dans le Congo central pour dire non à la récente décision du ministre national des hydrocarbures portant la construction d'une université et un hôpital moderne sur l'enveloppe de $10 millions, fruit du 9e avenant sur l'exploitation de gaz par Perenco dans cette entité. Pour ces manifestants, cette décision du ministre Didier Boudimbou fait saper l'espoir des habitants de Mwanda de desservir leur entité en électricité. Le point avec Nana Plurich Mambou.
Organisé par la plateforme Les Amis de Mwanda en collaboration avec les structures qui militent pour le développement de cette juridiction, cette marche en colère est partie de l'hôtel Massissa à la cité pour chiter devant les bâtiments administratifs du territoire où ils ont déposé un mémorandum auprès de l'autorité locale. À travers cette manifestation, les habitants de Mwanda fustigent la décision du ministre des Hydrocarbures portant construction d'une université et d'un hôpital moderne à Mwanda. Pour eux, Mwanda dispose déjà des hôpitaux et des universités. Ces fonds issus de l'exploitation des gaz par la Perenco ne serviront qu'à l'électrification de Mwanda ou rien. José Biala, coordonnateur de la plateforme Les Amis de Mwanda.
La prétendue décision du ministre des Hydrocarbures a énervé les esprits de toute la communauté. Le raccordement du territoire de Mwanda en électricité reste la priorité des priorités. Sur la problématique de la desserte en électricité du barrage Inga, nous avons été victimes de plusieurs promesses irréalisables de différentes autorités, tant provinciales que nationales. C'est pourquoi nous exigeons le retrait immédiat de la décision.
Ces fonds que le gouvernement affecte au développement des Mwanda sont issus de la signature et approbation par l'ordonnance présidentielle de l'avenant numéro 9 à la convention de 1969 régissant la recherche et l'exploitation des hydrocarbures dans la zone terrestre de la RDC. Matadi, Nana Plurich Mambu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Ghana, les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé de maintenir leurs sanctions envers le Mali. Il y a quelques jours, l'Union économique et monétaire africaine avait demandé la suspension, mais la CEDEAO est la seule autorité habilitée à pouvoir prendre cette décision. Le président de la Commission a également rappelé que les sanctions doivent être appliquées par tous les pays de la région. Au sujet de la Guinée, malgré certaines améliorations, certains éléments inquiètent les dirigeants de la CEDEAO. Les dirigeants régionaux ont également demandé la libération immédiate de l'ancien président burkinabé Rochmar Christian Kabore, assigné à résidence depuis le début de l'année. Après l'annonce d'une trêve humanitaire dans la zone du Tigré, l'heure est aux réactions en Éthiopie. Pour les habitants d'Addis Abeba, le fait que les rebelles et le gouvernement se mettent d'accord sur ce point marque un nouveau tournant dans cette guerre qui dure depuis près de 17 mois. La trêve proposée par le gouvernement n'a pas de durée déterminée. Pour les analystes, il s'agit d'une étape importante, mais le gouvernement doit agir rapidement et concrètement.
L'invité.
La centrale hydroélectrique Ruzizi 1 dans le sud Kivu connaît actuellement une baisse de sa production. Cette situation est à la base des délestages répétitifs qui s'observent dans la ville de Bukavu en cette période. La SNEL signale que la perturbation dans la fourniture en électricité est causée par la pollution du lac Kivu qui affecte tout le système de fonctionnement du barrage Ruzizi 1. Cynthia Bachizi a visité cette centrale mercredi. Elle s'est entretenue sur place avec Lievin Chisongo, le chef des productions. Suivez.
Lévin Tizongo, bonjour.
Bonjour, madame.
La ville de Bukavu connaît pour le moment beaucoup de pannes d'électricité et on aurait appris que c'est à cause de la pollution dans le lac Kivu. Comment ça se fait?
Effectivement, nous connaissons beaucoup de problèmes avec les déchets que la population jette dans le lac Kivu et que tout vienne échouer ici au niveau du barrage. La centrale a été conçue de façon à fonctionner avec les quatre machines que vous voyez ici et que nous puissions être en mesure de produire 30 mégawatts, disons au maximum. Mais avec les déchets qui viennent maintenant, nous avons de grilles à chaque entrée d'une machine. Quand les déchets viennent coller sur ces grilles, premièrement, ils empêchent à ce que l'eau puisse entrer vers les turbines. Alors, et à ce moment-là, la turbine ne sait plus produire sa puissance nominale. Il y a chute des pressions et par conséquent, baisse de production. À ce moment-là, nous devons venir nettoyer ces grilles et nous devons baisser sensiblement encore la production pour que les saletés qui étaient collées sur la grille puissent être facilement enlevées. Et pendant ce moment-là, c'est d'abord le délestage dans la ville.
En parlant d'opération de nettoyage, nous sommes ici sur le site, nous voyons qu'il y a des piroguiers qui viennent dégager certains détritus, mais il y a aussi de plongeurs professionnels venus renforcer l'équipe de nettoyeurs ici sur place.
Oui, évidemment, les problèmes d'abord des détritus avaient causé le problème de fonctionnement du groupe numéro 2. Parce qu'ici, nous avons quatre groupes. Le numéro 2, là, avait été arrêté depuis le 28 janvier 2022 parce que nous devions intervenir sur la route. Parce que si on n'avait pas arrêté cette machine, peut-être même c'est toute la centrale qui pouvait s'arrêter avec les problèmes de fuite d'eau. L'origine de ces fuites d'eau avait été causée par des éléments durs qui étaient partis détruire la porte de visite de la roue. Alors, quand nous avions arrêté cette machine, pour intervenir, il fallait aussi bloquer complètement l'eau afin que ça n'entre pas. Donc, il fallait faire entrer les batardeaux.
C'est quoi batardeaux?
Les batardeaux, ce sont les portes étanches que nous mettons en amont de tous les équipements pour empêcher que les eaux n'entrent vers la turbine et afin de permettre aux gens d'entrer à l'intérieur et d'intervenir. Alors, comme nous, on voulait maintenant poser ces batardeaux allaient se poser sur encore d'autres corps. Ce sont les arbres que vous voyez là-bas, même des grumes et tout ça. Donc, quand la population jette des histoires, il y a ceux-là qui vont jusqu'au fond, mais qui sont aspirés toujours vers la centrale. Quand on descendait les batardeaux, ça ne tenait pas. Il y avait toujours des fuites énormes. Donc, il fallait maintenant des travaux subaquatiques.
Donc, en profondeur.
Oui, en profondeur, pour aller dégager aussi ces détritus-là qui sont déjà posés et collés à ce niveau-là. On les a déjà posés, comme vous venez de dire, avec l'aide des plongeurs. Et effectivement, en descendant, ils ont trouvé que non, il y avait tellement de déchets que les bâtardons ne pouvaient pas se poser.
Alors, chose étonnante, le lac a toujours été pollué. Hein. D'ailleurs, beaucoup d'environnementalistes se sont toujours levés pour dire halte à la pollution dans le lac. Alors, il n'y a pas moyen de solutionner ce problème en amont et ne pas attendre qu'il y ait énormément de détritus pour arrêter certaines machines.
Oui, il y a plusieurs solutions. C'est qu'il faut toujours continuer à sensibiliser. Et tous les jours, nous sommes là pour dégriller. Donc, pendant la saison de pluie, on dégrille chaque jour. Et là, c'est pendant au moins 4 à 5 heures pour dégager les détritus. Donc, s'il pleuvait aujourd'hui, vous auriez vu des tas d'immondices ici. Donc, il faut continuer toujours à sensibiliser la population. C'est vraiment un fléau. On jette toujours sans gêne. Peut-être même à la limite, commencer à sanctionner. Il y a d'autres solutions techniques et nous sommes en processus avec notre hiérarchie de voir comment est-ce qu'on peut ériger un barrage flottant qu'à plus ou moins 300 mètres du barrage pour commencer à retenir ces saletés. Mais à un certain moment, si ces saletés sont beaucoup plus nombreuses, le barrage aussi peut céder. Bon, là aussi, évidemment, il y a de petites entreprises qui sont en train de traiter les détritus. Bon, on s'est déjà intéressé à ceux qui sont venus nous poser des problèmes. On pense que nous allons travailler avec eux, voir comment nous aider à commencer à prendre les détritus et les traiter un peu plus en amont.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, madame.